Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Eurosport Confidential. Eurosport Confidential épisode 4, le podcast d'Eurosport qui va vous faire découvrir le passionné de sport derrière le champion. On parlera avec notre invité que je vais vous présenter dans quelques minutes de sa carrière et de ses souvenirs. Trois parties dans l'émission, vous connaissez le principe maintenant, c'est l'invité qui concocte le menu. Il y aura d'abord la rétro perso dans laquelle nous évoquerons un moment fort de la carrière de notre invité. Ce sera ensuite le jour où. Et cette fois, on parlera d'une page de l'histoire du sport qui l'a particulièrement marqué. Et enfin, dans mon idole, la dernière partie de notre émission, nous parlerons d'une personnalité sportive pour laquelle notre invité a une admiration toute particulière. Eurosport Confidential, une émission enregistrée à l'hôtel Molitor à la Porte d'Auteuil à Paris. Le Molitor, notre partenaire que je remercie encore pour son accueil. Le Molitor avec sa piscine emblématique et sa façade reconnaissable entre mille. Allez, tout de suite, je vais vous présenter notre invité du jour. Après Thierry Omeyer, après Yannick Borel et après Jackie Durand, c'est un rugbyman qui est avec nous, un ancien rugbyman, tout jeune retraité. 67 sélections en équipe de France, 34 essais, presque un essai tous les deux matchs, ce qui explique sans doute le titre de son autobiographie, Chasseur d'essais, que vous pouvez lire et que je vous conseille aux éditions Solar, qui est sorti récemment. C'est monsieur Vincent Clerc. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Ça va, tout va bien ?
Tout va bien, impeccable, en pleine forme.
La vie de jeune retraité se passe bien ?
Très intense, plus intense que ce que je pensais, plus intense que la période rugby, donc elle est bien remplie et c'est, je pense, ce qu'il me fallait pour bien enchaîner après la carrière.
Et le terrain manque pas trop, non, ça va ?
Pour l'instant, non. Il m'a manqué pour la première fois sur le match au Stadium le 30 décembre entre Toulouse et Toulon, où là...
Ça piquait un peu.
Ouais, ça me démangeait un petit peu, mais globalement, non, parce que je suis allé au bout de l'aventure déjà, je pense, et du coup, ça, c'était chouette. Et puis je prends plaisir à regarder les copains, que je fais du sport à côté, que ça reviendra pour les beaux jours aussi, on est en plein hiver, c'est pas là où ça manque le plus.
C'est sûr. Allez, on va attaquer tout de suite avec la première partie d'Eurosport Confidential, la rétro perso. Alors on va se projeter un peu plus de 10 ans en arrière, 12 ans en arrière quasiment, tournoi destination, 2007, une année de Coupe du Monde, on va en parler. On est en Irlande, pas à Lonsdon Road, puisque le vieux stade mythique de Dublin venait de fermer ses portes. Et c'est à Croke Park qu'on va aller, Irlande-France, dans le tournoi. Et un moment important de votre carrière, Vincent, et comme vous le dites dans votre livre, sans doute l'essai le plus important de votre carrière. Alors on va revenir sur cet essai, mais d'abord, redonnez-nous un peu le contexte. Où en est Vincent Clerc à ce moment-là ?
Le contexte, c'est que... J'ai loupé la Coupe du Monde 2003, alors que...
Vous étiez arrivé en équipe de France.
Ouais, j'étais en équipe de France, j'avais joué les 11 matchs, enfin 10 matchs et demi, parce que j'ai loupé une mi-temps sur 11, donc j'étais persuadé de faire la Coupe du Monde en 2003. Et puis finalement, je n'ai pas été sélectionné, donc ça a été le vrai premier coup dur, en fait, même si c'était très récent dans ma carrière. Donc du coup, après, j'ai dû batailler pour revenir dans cette équipe de France. Il y a eu des allers-retours avec Bernard Laporte, et 2007, c'est le tournoi qui doit me permettre d'aller à la Coupe du Monde. Et ce n'est pas gagné, parce que je pense que Bernard Laporte, je ne suis pas trop dans ses plans au départ. Et je n'ai pas ma chance sur le premier match, et j'ai enfin ma chance sur le deuxième match en Irlande. Dans un contexte particulier où, en fait, Croke Park est un stade qui n'avait jamais reçu de sport anglais, en fait.
C'est le temple du football gaélique, du sport gaélique.
Exactement. Donc, ils ne voulaient pas de sport anglais, donc pas de rugby. Donc, c'était la première fois. Donc, il y avait une émotion très, très forte ce jour-là pour les Irlandais. Et du coup, moi, voilà, je jouais ma Coupe du Monde. Je jouais ma Coupe du Monde et je devais prouver que je pouvais faire partie des plans de Bernard Laporte. Et du coup, une émotion, c'est une des seules fois, je me souviens, où j'ai pleuré sur un hymne adverse. Il y avait sur le chant a cappella des Irlandais. Et puis voilà, le match se passe bien. Et l'histoire et le dénouement fait que cet essai marque les esprits. Et que du coup, il me donne peut-être plus de légitimité. Pourtant, il n'y avait rien qui avait changé dans mon comportement, dans ma façon de jouer. Mais quelque part, il a changé un peu mon statut et il m'a permis d'enchaîner les matchs et d'aller jusqu'à cette Coupe du Monde en France.
Alors, on va reparler de l'essai tout à l'heure, mais je voudrais que vous nous parliez un petit peu de Croke Park. C'est un stade que vous connaissiez pas, j'imagine, ou en tout cas de nom, peut-être vu des photos.
Bah, que personne connaissait en fait. Personne connaissait, enfin, dans le milieu du rugby, parce que personne n'y avait jamais joué. Et en fait, voilà, historiquement, il y avait eu un massacre d'Irlandais fait par des Anglais. Donc, on parlait beaucoup du contexte quand on est arrivé en Irlande, beaucoup de ce premier match de rugby à 15 dans ce stade. Et donc, du coup, quand on est arrivé, il y avait une émotion qui était palpable. Les gens étaient vraiment. Déjà, les Irlandais, il y a une grosse ferveur, mais là, on sentait qu'ils étaient très présents. C'est pour ça qu'ils ont fait deux hymnes, dont un a cappella. Il y avait, voilà, on avait été salués. En plus, les Français, ils nous aiment bien. Il y a une bonne relation. Mais du coup, il y avait vraiment ce contexte. On parlait vraiment de. Et eux voulaient marquer le coup, parce que voilà, c'était leur premier match dans ce stade-là. Mais voilà, nous, on ne s'est pas trop posé de questions. Ce n'était pas notre histoire. Notre histoire, c'était déjà de construire une équipe pour aller à la Coupe du Monde. Voilà, avec une équipe qui tournait, on avait chacun sa chance. On passait 7 semaines ensemble à Marcoussis. C'était la première fois que ça arrivait. Donc, il y avait voilà, un groupe qui était en train de naître. Et ce match, qui était le premier gros match de la série, parce que les Irlandais étaient quand même très forts à cette époque-là, faisait que nous, on avait de gros enjeux là-bas. Et voilà, et moi, à titre personnel, c'est vrai que j'avais besoin et j'avais la nécessité de faire un gros match. Mais c'était une bonne pression, finalement, c'est ces pressions qui subliment et qui sont pas.
Ouais, parce que vous
Voilà.
dites que c'est une des rares fois où vous avez pleuré pendant les hymnes, et même sur l'hymne adverse, ce contexte-là, ça peut aussi peut-être sortir du match. Parfois, là, ça n'a pas été du tout le
Non,
cas.
ça n'a jamais été le cas, non, de l'émotion, parce que, bon, déjà, c'est très beau hein, d'entendre un hymne irlandais a cappella, ça a résonné,
C'était
c'était
le
fort.
Highland Call ou
Ouais,
ouais.
c'était le Ireland Call. Et du coup, et puis, je sais pas, j'ai commencé à penser à mon père, voilà, parce que à partir de ce moment-là, inconsciemment, on sait que je devais le sentir, qu'il y a quelque chose qui pouvait basculer, parce que si je faisais pas mon match, ça voulait dire probablement pas de Coupe du Monde, j'aurais pas une autre chance derrière. Et après, ça va vite, on ne sait pas quand on va retrouver l'équipe de France. Et donc, j'avais sûrement envie que ma famille soit présente. Et bon, logiquement, elle n'était pas là ce jour-là. Mais voilà, j'ai commencé à penser à eux. Donc, mêlé à ces échos de chants irlandais, voilà, je crois que c'est monté. Et puis voilà, puis on avait envie d'en découdre parce que c'est long, le temps de rentrer, de s'installer, d'être salué par le ministre, les chants, le double. Il y avait eu donc deux hymnes. Voilà, c'est très long et voilà, on a cette pression qui monte et voilà, on est à fleur de peau quoi avant que ça démarre.
Votre match avant ce dénouement dont on va parler dans quelques instants, il se passe comment?
Il se passe bien et c'est vrai que j'ai peu de souvenirs en fait de mes matchs, mais celui-là, je m'en souviens quasiment de bout en bout. Je me souviens très vite dans le match d'avoir fait une percée. Je me souviens rapidement aussi d'avoir fait une passe décisive à Raphaël Ibanez qui va marquer. Tout se passe bien et il y a un moment, il y a des moments où on sent que tout se passe bien dans un match, que ça prend le bon tournant et que ça se passe bien. Et je me souviens qu'il y a, je sais pas, en milieu de deuxième mi-temps, je me dis si je marque, et je sais pas, ça m'est jamais arrivé parce que je célébrais jamais mes essais. Mais j'aimais pas trop ça, j'avais envie d'aller voir les copains, mais c'est tout. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, ça m'a traversé l'esprit de me dire si tu marques, tu serras fort le coq sur ta poitrine parce que voilà, t'y tiens, cette équipe de France. Et ça m'a traversé l'esprit, alors que pourtant, on est dans notre match, on pense à tout sauf à célébrer. Et voilà, ça m'a traversé l'esprit et je sais pas, 20 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, il y a eu ce moment de bonheur. Mais du coup, voilà, il y a des choses qui se passent qui sont voilà, qui sont incontrôlables. On ne sait pas pourquoi elles arrivent, mais en tout cas, je me sentais très très bien dans ce match, ça c'est sûr.
Alors, on arrive à la fin, 78e minute. Donc, si je ne me trompe pas, l'Irlande mène 17-13,
Ouais,
je
c'est
crois.
ça, c'est
Voilà.
ça.
Donc, un drop ou une pénalité ne suffit plus. Pour gagner, vous êtes obligé de marquer un essai. Et donc, il y a cette action décisive avec, moi, je me souviens notamment d'une percée de David Marty qui rentre dans les 22. Derrière, je crois que
c'est Pierre Mignoni pour Lionel Bouxis. Voilà,
qui ouvre, vous vous retrouvez plein axe à peu près sur les 22, à peu près face au poteau. Et alors là, c'est un essai de trois quarts centre, en fait, que vous marquez plus que de trois carrels ce jour-là.
Ouais, c'est instinctif, on ne sait pas pourquoi, parce qu'effectivement, il y a du soutien à l'extérieur, mais après, le rugby, c'est aussi beaucoup de sensations. Je sens que la défense irlandaise a un peu peur des extérieurs, qu'elle est en train de glisser, de naviguer pour aller vers les extérieurs, donc elle est peut-être moins face à moi pour défendre, avec les épaules mal tournées, donc du coup, je décide de rentrer ma course, mais tout ça, on ne le calcule pas, c'est juste du feeling, quoi. Ouais, c'est de l'instinct. Exactement, mais comme pour toute la carrière, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont instinctives dans le sport en général.
Il faut aller marquer cet essai. Mignoni, 4 points de retard. Bouxis,
à gauche,
il est passé.
Le ballon, c'est magnifique.
Essai français, superbe. Et regardez la joie des Français. On laisse le bel Sinclair. C'est le chaos de l'équipe de France. Il fallait marquer cet essai, le deuxième des Bleus. Il est signé Vincent Clerc. Les Français reprennent la main au score, un point d'avance. Quel match des Bleus.
J'ai fait ce choix-là de rentrer ma course. Et puis voilà, puis après, c'est un peu un slalom, les changements de main. Mais ça, après, c'est des réflexes d'entraînement, en fait. Et puis surtout, il y a cette délivrance quoi, d'aplatir. Parce qu'on sait que... On sait que c'est décisif, on sait que c'est important, on sent les gens autour de nous. Je me souviens des joueurs qui vont sauter dessus, tout ça, ça arrive rarement au rugby. On se jette pas les uns sur les autres et on n'est pas très démonstratif. Mais là, parce que c'était un tournoi important et que cet essai, il était important pour moi, mais il était important pour l'équipe parce qu'il valide. On sait que quand une équipe, elle gagne, elle a plus de chances d'être dans la continuité, d'enchaîner les matchs. Et puis du coup, il y avait cette Coupe du Monde. Donc tout le monde était content pour l'équipe, pour lui, de valider ce travail. Puis ça montrait un bel état d'esprit. Et c'est vrai qu'on avait un groupe qui avait un bon état d'esprit. Et donc du coup, voilà, c'était l'explosion de joie. Mais comme j'en ai rarement eu ou plus après, parce que il y a d'habitude plus de pudeur, en fait.
C'est sans doute l'essai le plus important de votre carrière, en tout cas en équipe de France. Il a changé beaucoup de choses. Si vous marquez pas, si les Bleus gagnent pas, vous l'avez dit, peut-être que derrière vous ressortez, peut-être qu'il n'y a pas la Coupe du Monde 2007, peut-être que du coup il n'y a pas la suivante non plus.
Exactement.
Donc il change quand même presque tout cet essai.
Ouais, je pense qu'il y a des moments clés dans une carrière. Alors j'aurais peut-être continué une carrière sympa hein, au Stade Toulousain parce que j'ai eu la chance de jouer longtemps, puis après à Toulon. Mais c'est vrai que je pense que notamment en équipe de France, elle a changé pas mal de choses et... Elle montrait aussi un état d'esprit, quoi, et de quelqu'un qui lâche jamais. Et je pense que ça m'a suivi après pendant longtemps.
Alors l'Irlande, ça a été un peu votre trèfle à quatre feuilles hein, pendant votre carrière. Vous avez souvent marqué contre les Irlandais. Cette année 2007, l'équipe de France retrouve l'Irlande en Coupe du Monde au Stade de France. Un match hyper important après la défaite contre l'Argentine. Si vous perdez ce jour-là, il y a même pas de quart de finale. Donc ça aurait été quand même un échec total de ne pas passer le premier tour à domicile. Comment vous l'expliquez ça ? C'était leur jeu qui vous convenait bien ? C'est le hasard ou c'était des dispositions
Il y a un peu de hasard, il y a beaucoup aussi leur jeu. C'est vrai que les Irlandais nous ressemblaient beaucoup en fait. C'était une équipe qui jouait beaucoup au rugby, qui était même dans un excès de jeu. Ils adoraient ça.
Qui permettait de s'exprimer quand même.
Qui permettait d'exprimer et du coup il y avait pas mal de ballons de turnover. Ça c'est vrai. Et donc du coup c'est vrai que. Et du coup même contre eux, à chaque fois, souvent ça m'est arrivé d'avoir une mi-temps pour eux, une mi-temps pour nous. Et je me souviens une fois, c'est l'année d'après où je crois que je marque 3 essais en une mi-temps. Là, j'en marque 2 sur cette Coupe du Monde. Mais derrière, la mi-temps, elle est complètement pour eux et ils reviennent au score. Voilà, c'était très équilibré à chaque fois, mais souvent avec beaucoup de volume de jeu. Donc du coup, beaucoup de ballons pour les ailiers, beaucoup de ballons de contre. Et du coup, c'est vrai que ça m'a souvent souri moi, de ces matchs-là où très ouverts, où j'ai pu marquer des essais.
Cette Coupe du Monde 2007, puisqu'on va rester un petit peu dans la continuité de ce match à Croke Park et ce qui s'est passé après, ça reste un bon souvenir quand même pour vous ?
Ouais, ça reste un bon souvenir. Pas mal de regrets sur cette demi-finale contre l'Angleterre. Ça démarre très mal, en fait, puisqu'on perd contre l'Argentine sur le premier match de Coupe du Monde.
Mais Et finalement, vous ne jouez pas d'ailleurs.
Non, je ne joue pas. Ouais. Je joue pas.
C'était plutôt entre
guillemets. Ouais, du coup, je joue la Namibie après. Puis ça se passe bien à Toulouse. Mais en même temps, la Namibie était beaucoup plus faible. Mais du coup, on garde cette équipe qui avait gagné contre la Namibie. Et on joue l'Irlande. Et ça gagne. Et en fait, cette défaite, elle nous emmène sur un parcours. Plus que dangereux, puisqu'elle nous amène à rencontrer les Blacks
à
Cardiff. Voilà, sur une Coupe du Monde en France, on se retrouve à jouer à Cardiff. Donc forcément, plus chez nous. C'était presque surréaliste d'aller jouer un quart de finale au Pays de Galles alors qu'on avait une Coupe du Monde en France. Donc du coup, à un moment donné, où on avait toute cette effervescence qui était plutôt sympa en France, on s'est retrouvé, c'était le calme plat au Pays de Galles et c'était très particulier. Mais du coup.
Est-ce que ça vous a pas aidé finalement?
Si, ça nous a aidé sûrement parce qu'on était. On s'est dit quand même inconsciemment finir la Coupe du Monde en France au Pays de Galles. Enfin, il y avait un truc qui était. Ouais, inenvisageable en fait. Et donc du coup, puis il y avait cette première défaite où on nous avait beaucoup un peu tapé dessus. Hein, et donc du coup, on avait tellement peur. On avait peur de ces All Blacks qu'on s'est recroquevillé sur nous. Il y a commencé à avoir des idées qui ont germé, notamment celle de Serge Betsen de mettre les maillots bleu, blanc, rouge pour affronter les Blacks, de monter face aux Blacks, ce qui s'était presque jamais fait, puisque ça fait jurisprudence de ne pas dépasser la ligne. Il y a plein de choses qui sont... On a créé notre histoire à partir de là, à partir de cette peur de sortir de la Coupe du Monde. On a créé cette histoire et ce match qui a été absolument parfait. Quoi.
On va voir quelle sorte de AK vont exécuter les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais. Le premier défi de ce quart de finale.
Ouais, mais moi, pour nous, qui est juste le match parfait. Et on bat
mais
les
pas
Blacks.
Pour vous. Moi, j'étais à Cardiff ce jour-là. Et c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est que moi, la première chose qui me revient en tête de ce quart de finale, c'est sans doute le AK. Donc, c'est avant le match. C'est vrai que c'était une image très, très forte. Et je me souviens qu'en tribune de presse, on s'était dit à ce moment-là, ils vont gagner ou ils vont perdre, on n'en sait rien, mais il va y avoir un match. Quoi.
Voilà, on les avait vraiment défiés. Quoi. D'habitude, on est un peu spectateur de leur AK. Là, on était rentré, on s'était dit, voilà, quitte à y être, autant les défier, leur montrer qu'on est prêt. Et après, on fait le match parfait, hein, quasiment zéro pénalité, une ou deux.
Puis une défense incroyable, vous gagnez ce match en défense.
Du réalisme à chaque... Mais bon, il fallait ça, et du coup, c'est un match extraordinaire, et on revient en France, et on revient chercher cette demi-finale contre les Anglais. On y avait laissé pas mal de jus, peut-être que ça aurait mérité un peu plus de fraîcheur, et puis surtout, un match qui démarre mal, mais après, du coup, on est bien dans le match, on repasse devant, on est devant longtemps, sauf qu'à un moment donné, Johnny Wilkinson, il fait basculer le match psychologiquement, il met un drop, et alors qu'ils sont toujours derrière, on a l'impression que ça y est, ils sont repassés devant, parce que lui est fort et lui représente leur victoire en 2003, les champions du monde. Et puis, il a cette maîtrise, ce sang-froid, on le sent serein. Et je crois qu'il nous déstabilise et on finit par perdre ce match. Alors que je suis sûr qu'on aurait pu rivaliser contre les Sud-Africains en finale. Donc, c'est un gros regret aussi parce qu'on était pas loin. On était en France et puis derrière, il n'y avait plus d'énergie et ça a été dur de rebondir contre les Argentins sur la troisième place.
Et quand vous dites que, en parlant du match à Croke Park, qu'il y a des matchs, des jours comme ça où on sent que tout se met bien en place, est-ce que inversement, une demi-finale contre l'Angleterre, même si vous êtes longtemps devant au score quand même et que ça bascule dans les 10 dernières minutes, est-ce qu'on sent que ça va mal se terminer ou pas?
Non, on sent pas, mais on sent qu'on est en
qu'on est fragile.
Pression. Ouais, on sent qu'on maîtrise pas, et c'est ça en fait qu'on ressent. C'est qu'on sent qu'on maîtrise pas et que presque on attend l'échec de l'adversaire. On entend que Wilkinson soit un peu moins en forme, qu'il loupe ses pénalités. Plus que, en plus, moi je me souviens, je prends une cuillère sur les 22 alors que je file à l'essai. Je prends une cuillère de Joe Worsley, je relève le ballon pour Chabal qui est échoué à 50 cm de la ligne. On sent que ça ne veut pas sourire pour prendre le large et pour se mettre à distance. Et on a du mal à se sortir de cette pression anglaise. Et du coup, on est presque attentiste de savoir si eux, ils vont prendre... C'est à eux de prendre leur chance. Ouais. Quoi.
Vous avez l'impression que vous allez pas gagner, vous pouvez plus le gagner, mais qu'il faut
ouais,
pas le perdre.
Ouais, quoi, c'est ça. Et ça me l'a refait en 2011 contre les Gallois. C'est des matchs où presque on attend le coup de sifflet final.
La demi-finale.
Parce que on a tellement peur de perdre qu'on est plus, on joue pour plus perdre et plus pour gagner. Et ça change. Et alors qu'eux, ils sont à bloc pour gagner. Mais après, c'est malheureusement, c'est aussi ça, c'est la force de s'imposer psychologiquement, ce qu'on avait su faire contre les Blacks, contre Rio. Alors que moi, je me souviens sur le match des Blacks, le quart de finale, sur les 15 premières minutes, à un moment donné, on se regarde, et moi, je suis persuadé qu'on va prendre 100 points. Ça va vite, ça tape de partout, on est submergé. Sauf qu'on tient bon, et qu'à un moment donné, quand on marque cet essai, notamment avec Yannick Jozion, là, on bascule, on sent qu'on est plus fort qu'eux. Et là, on est dans le match et on sent que c'est nous qui sommes forts. Mais ça, c'est la physionomie du match, et alors qu'on est moins fort qu'eux. Hein, mais psychologiquement, on a pris l'ascendant. Mais ça, c'est vraiment des fois des choses que malheureusement qu'on ne maîtrise pas.
Bon, on va oublier cette demi-finale. On va rester sur l'image de Croke Park, cet essai, l'essai de votre carrière en équipe de France. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission, le jour où, et on va rester dans le rugby, mais on va remonter encore plus loin en arrière. Le jour où, deuxième partie d'Eurosport Confidential, et après avoir évoqué le tournoi Destination 2007 et en filigrane la Coupe du Monde qui a suivi, on va parler d'une autre Coupe du Monde, 1995. Alors là, Vincent, vous étiez adolescent, vous avez
c'est
quoi, 14 ans
14 ans, ouais.
La fameuse Coupe du Monde en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui revenait dans le concert des nations après l'apartheid et après avoir raté donc les deux premières Coupes du Monde en 87 et 91. Alors pourquoi vous avez choisi ce souvenir-là ?
Parce que je crois que c'est mes premiers gros souvenirs de rugby, en fait. Je commençais un peu à m'intéresser au rugby à cette époque-là.
Vous jouez déjà ou...
Je joue depuis que j'ai 8 ans, mais... Je ne suis pas un grand passionné à l'époque. Je joue pour être avec les copains, pour m'amuser. Je commence à vraiment aimer ça, mais je n'ai pas de projection de rugby professionnel ni rien. Mais je commence à aimer ça, je commence à aimer regarder ça avec mon père, partager ces moments-là. En plus, en 92, j'ai la chance de croiser l'équipe d'Australie qui vient de manière improbable au Fontanil-Cornillon à côté de Grenoble, où j'ai l'occasion de les rencontrer. Donc, je commence à un peu avoir des gens que j'admire, des joueurs qui me font un peu rêver. Et du coup, c'est mes premiers souvenirs où je me souviens, c'était la première fois que je collectionnais l'album Panini de la Coupe du Monde, où je m'intéressais aux joueurs vraiment. Et c'est cette première période-là. Et en plus, l'équipe de France, pareil, je les avais vus jouer à Grenoble un peu de temps avant. Donc, je commençais à m'identifier au rugbyman que je voyais. Et cette Coupe du Monde, il y a John Alomou, qui aussi émerge et qui est vraiment un phénomène. Moi j'adorais les Australiens et les Sud-Africains. Il y a Chester Williams qui est un modèle d'ailier. Je comprenais pas encore toutes les subtilités politiques à l'époque de ce que représentait cette Coupe du Monde. Mais on sentait que cette Coupe du Monde allait être.
C'est un souvenir sportif.
C'est vraiment un souvenir sportif pour moi. C'est après que j'ai plus compris tout le contexte qu'il y avait autour. Mais ce match épique entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud en demi-finale, où on voit des gens avec des immenses râteaux pousser l'eau du terrain pour que le match puisse se jouer. La finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Donc c'est vrai que. Pour moi, il y a énormément d'événements marquants sur cette Coupe du Monde. Et du coup, c'est vraiment peut-être la Coupe du Monde qui m'a le plus marqué, où j'ai le plus d'images, de souvenirs. Les essais de John Alomou contre l'Écosse, contre l'Angleterre. James Small qui arrive à le museler en finale. C'était extraordinaire. Puis cette équipe de France qui fait un super parcours et qui mérite, pour le coup. Enfin, Abdelatif Benazi qui échoue à 50 cm de la ligne parce qu'il tombe, il s'embourbe dans l'eau. Enfin, voilà, il y avait une dimension presque cinématographique à cette Coupe du Monde, avec des événements de partout. Et c'est pour ça que c'est un souvenir qui est très fort. Et on ne voyait pas comment les All Blacks pouvaient perdre. Et malgré tout, les Sudaf dominent par l'envie, par le courage. Et puis après de voir Pinard soulever la coupe, c'était beau, quoi. On se dit que soulever une Coupe du Monde chez soi, il y a quelque chose aussi qui fait rêver.
Alors pour parler de l'équipe de France, moi j'ai parlé de cette Coupe du Monde avec pas mal d'anciens joueurs, je me souviens notamment Thierry Lacroix. Il y a beaucoup, beaucoup de regrets du côté de l'équipe de France. Ils étaient persuadés d'avoir une équipe capable d'être championne du monde. Et puis c'est vrai que cette demi-finale jouée dans des conditions
apocalyptiques,
catastrophiques, un temps épouvantable, un terrain épouvantable, quelques décisions d'arbitrage qui sont restées en travers de la gorge. Vous avez souvenir, vous, précis de ce match
quand vous... J'ai souvenir, d'action. Je me souviens de beaucoup d'énervement sur le terrain, des joueurs qui râlaient. Mais c'était, je me souviens de ces mêlées à répétition près de la ligne des Sudaf. Mais je me souviens de toute cette équipe de France qui s'était rasé la tête aussi. Ouais. Je sais même pas pourquoi. Faudrait que je leur demande un jour ce qu'il a. Ils ont dû faire un pari à un moment donné ou vouloir se donner une identité. Mais je me souviens bien de cette équipe de France et de ce match. Et on sent que ça doit basculer pour la France, qu'elle domine, mais qu'elle n'y arrive jamais. Qu'il y a toujours... Et puis c'est vrai que l'arbitre, il est catastrophique des fois. Il donne des mêlées au Sudaf, il ne récompense pas l'équipe de France. On rentre dans l'embut plusieurs fois. C'est dur parce que c'est frustrant, parce qu'effectivement, l'équipe de France, on sent qu'elle est meilleure.
C'est pas un match comme vous les auriez aimé, ça.
J'ai eu la malchance d'en vivre un après quelques années plus tard en 2011, où sûrement qu'on méritait et que y a plein de un contexte en fait.
La finale
de 2011, exactement. Je crois que le contexte était trop présent pour et qu'il aurait fallu être beaucoup plus fort en fait, et pour nous comme pour eux, pour passer cette étape. Eux, c'était la demi-finale, nous, c'était la finale, mais il y avait un contexte oppressant et qui, aussi inconsciemment, devait influencer l'arbitre, je pense de manière inconsciente, c'était difficile de les voir perdre, comme nous, de voir perdre les Néo-Zélandais en finale.
Est-ce qu'il ne fallait pas, d'une certaine manière, que l'Afrique du Sud gagne cette Coupe du Monde à domicile? C'était il y a plus de 20 ans. C'est vrai qu'il y a la très belle image de François Pinard avec Mandela, ce sont des images très fortes, mais au-delà de l'image d'Épinal de cette Coupe du Monde que Clint Eastwood a raconté après dans le film Invictus, on a appris aussi après certaines choses. Est-ce qu'il n'y a pas un voile quand même un petit peu sur cette victoire sud-africaine?
Si, il y a un voile. C'est pour ça qu'on en a fait un film et qu'on a entendu des histoires d'intoxication alimentaire. On a parlé de plein de choses assez négatives autour.
Et puis il y a des éléments concrets, malheureusement, même si c'est, on peut pas
bien sûr,
certains, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont tombés gravement malades.
Bien sûr, on a parlé de dopage et tout ça, mais c'est vrai que malgré tout, on saura vraiment jamais, je pense. L'Afrique du Sud, elle avait vraiment besoin de cette Coupe du Monde. Elle avait besoin, ça dépassait le sport en fait. Ouais. Et je suis content de... Enfin, je m'en rends compte maintenant, mais ce que ça représentait avec Nelson Mandela, c'est vrai que l'absence, l'apartheid, qui est encore, qui n'est pas un problème réglé, mais qui était un problème très présent, et d'avoir ce partage entre les Noirs et les Blancs qui allaient chercher une Coupe du Monde ensemble dans ce pays-là, dans le contexte politique de l'époque, c'était peut-être plus important que ce soit eux qui gagnent, plus qu'un autre.
Mais Pierre Berbizier, lui, je me souviens d'une interview dans l'équipe MAG il y a quelques années où il disait, moi, le symbole, j'en ai rien à foutre, je voulais gagner la Coupe du Monde j'ai l'impression qu'on me l'a un peu volé.
Mais je le comprends à 200%. Lui, il était dans sa compétition et il sait probablement, il n'avait pas l'occasion d'en regagner une de Coupe du Monde comme moi quand j'ai perdu en 2011. On est satisfait parce qu'on aurait signé pour être en finale, mais à la sortie, la frustration qu'on a enlevée aux joueurs de l'équipe de France, c'est une potentielle finale, une potentielle Coupe du Monde. Et ça doit changer une vie d'être champion du monde. Donc bien sûr qu'après, nous qui ne l'avons pas vécu, et on peut dire que c'était bien pour l'Afrique du Sud, mais les joueurs qui l'ont vécu, il y a un sentiment d'injustice qu'on peut pas enlever, ça c'est sûr.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au-delà du destin des Bocs, des Blacks, des Bleus dans cette Coupe du Monde, c'est sans doute une Coupe du Monde qui a fait changer de dimension le rugby aussi. On est au milieu des années 90, c'est la période où la Coupe d'Europe aussi va être créée. Mmh. C'est la troisième Coupe du Monde, mais les deux premières ont vraiment un parfum d'amateurisme encore. Là, avec un personnage aussi comme John Alomou qui va changer l'impact du rugby auprès du grand public, il y a probablement un avant et un après Coupe du Monde 95, vous êtes d'accord avec ça?
Je suis d'accord, je crois que le rugby professionnel part de là, il commence à être professionnel à partir de 95, tout simplement, c'est vrai. Et on est sur une Coupe du Monde très spectaculaire, avec effectivement une image très forte qui est John Alomou, qui représente, les gens vont s'intéresser au rugby parce que John Alomo aussi, parce qu'il traverse le terrain, parce qu'il a un physique hors norme, et du coup il va dépasser un peu les frontières et sortir le rugby de son milieu un peu plus confidentiel. Et puis voilà, puis on va basculer dans un rugby petit à petit professionnel qui va vraiment structurer effectivement la Coupe d'Europe. Donc ouais, cette Coupe du Monde est un véritable virage pour le rugby mondial dans l'approche du rugby, c'est sûr.
Ok, ben voilà, on a fini de parler de rugby pour aujourd'hui. On a fait un bon petit tour d'horizon des souvenirs de Vincent Clerc, de joueurs et d'enfants. Et puis, on va passer à la troisième et dernière partie, mon idole. Mon idole, troisième et dernière partie d'Eurosport Confidential. Allez, on laisse le ballon ovale. On va parler d'une toute petite balle cette fois, jaune. Et d'un sportif dont je vais finir par croire qu'il est vraiment très populaire, puisque c'est la deuxième fois déjà qu'il est choisi dans cette émission. Et comme Thierry Omeyer il y a quelques temps, Vincent Clerc a choisi de parler de...
Roger Federer,
voilà, tennisman. Le tennis, d'abord, c'est un sport que vous aimez beaucoup, au-delà de Federer, ou pas ?
C'est un sport que j'aime et que je vais m'y remettre. J'en ai fait longtemps. J'en faisais pour m'amuser quand j'étais plus jeune. J'ai toujours continué un petit peu, mais c'est un sport qui me plaît, qui est loin du rugby, donc du coup, qui me plaît. Moins traumatique.
C'est un sport individuel, déjà, voilà. Moins traumatique.
Mais c'est pour ça que j'aime ça, parce que c'est loin de nous. C'est vrai qu'on a cette chance-là, nous, de vivre en collectif tout le temps, de pouvoir s'appuyer sur les autres quand ça va un peu moins bien. Et ça, cette différence-là, elle est quand même importante. Et je crois que c'est pour ça qu'on est admiratif aussi des sports collectifs, des sports individuels, pardon, parce que voilà, tout repose sur eux. Et ils doivent avoir cette force de caractère de se remettre en question tout seul, de devoir avancer, d'affronter les échecs tout seul. Et c'est pour ça que des joueurs qui ont cette longévité et cette régularité dans la performance, moi, je suis assez admiratif.
Alors, vous avez le même âge que Roger Federer. Vous êtes né en 1981, vous venez de prendre votre retraite. Lui, pas encore. Il est encore au sommet de son sport. Il est plus numéro un mondial, mais enfin, il est vraiment au top. C'est quelque chose qui vous parliez de la longévité. C'est quelque chose qui vous impressionne particulièrement.
Ouais, c'est quelque chose qui m'impressionne. Et c'est pour ça que je pensais souvent à lui. Parce que moi, sur la fin de ma carrière, j'ai dû me relever notamment d'une blessure quand j'avais 35 ans. Je sais combien c'est dur. Je vois combien c'est d'efforts de rester à ce niveau-là. Puis plus on vieillit, plus c'est des efforts, plus c'est de l'investissement. Et c'est pour ça que de le voir encore à ce niveau-là, on sent qu'il maîtrise. Il maîtrise son corps, il maîtrise sa façon d'aborder les matchs, même de choisir ses compétitions. Il se connaît par cœur et c'est pour ça qu'il arrive à être encore aussi performant à cet âge-là. C'est extraordinaire parce que dans le milieu du tennis, il y a quand même du monde qui pousse derrière et qui essaye de chahuter les anciens. Mais d'avoir ce niveau de performance à son âge, voilà, je pense que c'est énormément de sacrifices, d'autant plus que c'est beaucoup de mobilité. Ils sont constamment en déplacement à droite à gauche, c'est pas évident au niveau familial, voilà, ça même si on voit le côté beau de gagner et qu'il gagne de l'argent, des choses comme ça, mais tous les sacrifices que c'est à côté pour lui, voilà, moi je suis très admiratif d'arriver à durer et surtout parce qu'il a la motivation, parce qu'on
Et le plaisir.
Et le plaisir, aussi. Voilà, on sent que c'est parce qu'il le fait pour ça, parce qu'il adore ça, parce qu'il prend encore du plaisir à souffrir, à s'entraîner, à aller chercher des gros matchs. Et moi, c'est ça, c'est d'avoir toujours. On en parlait l'autre jour, j'ai entendu Arsène Wenger parler d'endurance, de motivation, et que c'était le plus important. Mais je crois que c'est ça, quelqu'un qui est motivé sur. C'est facile d'être motivé sur une petite période, mais d'être motivé sur 20 ans de carrière, je trouve que c'est très fort.
Vous avez connu, vous, des moments de lassitude comme ça dans votre carrière où le plaisir n'est jamais parti ?
Ouais, j'ai connu des moments de lassitude. Alors, le plaisir a toujours été là parce que c'était le rugby me plaisait, mais c'est vrai que de temps en temps...
Tout ce qui était à côté.
De s'entraîner dur, des fois dans des conditions difficiles. Des fois, c'est difficile. Et souvent, c'est les blessures qui m'ont permis de retrouver de la fraîcheur, en fait, paradoxalement. C'est d'être éloigné du collectif, d'être éloigné de cette souffrance qu'on prend plaisir. Finalement, ça crée de l'endorphine, du plaisir. Et de se sentir au meilleur de son potentiel, d'aller chercher le meilleur de son potentiel. Ouais, des fois, c'est dur. Donc, c'est pour ça que quand on est tout seul, quand on n'a personne sur qui s'appuyer, même s'il a créé un staff, évidemment, et qu'il a des partenaires d'entraînement, mais globalement, c'est lui tout seul. Et je trouve que c'est ça qui est plus impressionnant que dans un sport collectif.
Federer, c'est un joueur que vous aimez depuis ses débuts, depuis vous le suivez depuis.
Ses débuts, parce que c'est vrai qu'il avait le même âge que moi, donc c'était assez marrant. Puis il y a cette beauté à le voir jouer en fait. Il est classe, il est facile. Alors il est facile. On a l'impression qu'il est facile.
Oui, il dégage une impression de facilité.
Et ça, j'aime ça. C'est le vrai plaisir de le voir jouer. Je crois qu'il m'a vraiment fait. J'aimais le tennis. J'ai toujours aimé la génération d'avant. J'aimais courir, battre after. J'aimais les Français. J'aimais la Coupe Davis. Mais lui, vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé son style, son style de jeu, cette fluidité. On a envie de s'approprier ça dans son sport, en fait, de se sentir aussi fluide que lui, de maîtriser la technique comme il le fait et d'être, de dégager autant d'efficacité et de performance et pourtant de la simplicité et de la facilité.
Si on devait faire une comparaison rugbystique, il serait plus trois carrels ou demi d'ouverture que talonneur.
Il serait demi d'ouverture. Un très beau demi d'ouverture, je pense.
Dan Carter du tennis.
Voilà, Fred Michalak.
Fred Michalak. Les grands souvenirs de Federer pour vous, les matchs qui vous ont marqué, si vous deviez en citer 2-3 comme ça.
Si je devais citer Wimbledon, les matchs de Wimbledon, les finales de Wimbledon, où on sentait. Il y en a tellement, ou que ce soit les finales à Roland-Garros. Moi, j'ai eu la chance de voir une finale à Roland-Garros. Peut-être que c'est celle-là qui m'a le plus marqué.
Celle qu'il avait gagnée
Qu'il avait gagnée.
Contre Soderling. La seule qu'il avait gagnée, c'était la bonne.
Au micro, Roger Federer.
Bonjour. Oui, ça fait du bien d'être sur le podium en comme vainqueur pour une fois. Je sais, c'est très difficile de faire, mais c'est un moment magique là.
Ça c'était mon souvenir. Et après Wimbledon, parce que ça représentait, on sent que, que c'est des moments particuliers pour lui. Mais la chance de l'avoir vu jouer. Du coup, ça reste un plaisir. Après, je l'ai revu jouer à Roland-Garros sur d'autres matchs, mais la finale, c'est pour moi le plus grand moment parce que j'y étais. Parce que du coup, en fait, au tennis aussi, on a une proximité encore plus forte que le rugby, même si les supporters ne sont pas très loin. On voit le visage, on voit les gestes. Ouais. Et tout au long du match, on peut arriver à sentir ou de la fébrilité ou de la confiance. Et moi, j'aime ça aussi, en fait, pouvoir... dévisager et analyser ce qui se passe sur le terrain et d'être presque très proche de lui et de ressentir un peu son émotion et j'ai toujours aimé aussi cette humilité, cette pudeur quand il gagnait. Il s'excusait pas mais presque de gagner. Il y a beaucoup de respect aussi vis-à-vis de l'adversaire et je crois que c'est ça aussi qui est il y a de l'exemplarité dans ce qu'il montre. Voilà, tout le respect, la longévité, c'est une chose, mais le respect qu'il montre, l'humilité, la force de caractère pour rester là à ce niveau-là, je trouve que c'est un bel exemple de sportif.
Alors vous parliez de votre regard de spectateur, là, par exemple à Roland-Garros. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Thierry Omeyer, par exemple, m'avait expliqué quand il regardait un match de tennis, il avait un œil de fan, de spectateur, parfois de supporter, mais il ne se départissait pas complètement de son regard de compétiteur. Et c'est un peu ce que vous dites aussi. Vous cherchez des infos quand vous regardez du sport de haut niveau comme ça.
On cherche des infos, exactement. On cherche des comportements, voir si le comportement est... Et peut-être si on arrive à connecter en lien avec ce qui va se passer, c'est un peu comme un jeu des devinettes, de savoir si le corps, ce qu'il exprime ou ce que le sportif exprime, c'est de la fébrilité, de la confiance ou de la superstition, parce que quand on regarde le tennis, il y a des moi j'avais vu il faut que tu m'aides une fille russe, Sharapova, qui avait, c'était presque trop robotisé, et c'était même presque dérangeant en fait de se dire, elle avait besoin de ça, on sentait qu'elle avait besoin, mais du coup on n'arrivait plus à sentir la notion de plaisir, parce qu'elle était dans un tel rituel, c'était très déstabilisant à voir. Alors que Federer, on lit moins ça, ou comme Nadal, voilà, c'est tic et ces choses comme ça, c'est rituel finalement. On le sent moins chez Federer, on sent plus de, peut-être, d'instinct, de feeling. Moi, ce que j'aime,
La fluidité dont vous parliez.
Ouais, voilà, c'est ça. On sent qu'il a moins besoin de se raccrocher à des choses comme ça.
Et alors, vous parliez du fait qu'aujourd'hui, donc, il était encore là. C'est vrai qu'il a une gestion de son temps, de son calendrier, notamment aujourd'hui, qui sans doute lui permet de se maintenir au plus haut niveau. C'est un luxe aussi qu'il a, hein, parce qu'il peut se permettre de ne pas jouer pendant 3 mois depuis 2 ans pour être plus performant le reste de la saison. Ça, c'est un luxe que les rugbymans n'ont pas. Et le calendrier, c'est dans le rugby, c'est quand même un vrai casse-tête aujourd'hui.
C'est très trop intense, c'est sûr. On en parle depuis des années. Et c'est...
Oui, vous avez connu ça, vous, déjà.
Ouais, voilà. On parle des mêmes problèmes depuis 15 ans. Ouais. Moi, depuis que j'ai commencé, la problématique, elle est la même, à savoir protéger un peu les joueurs. Parce que à l'heure actuelle, c'est vrai que les joueurs internationaux, c'est pas positif pour les clubs, puisque souvent ils sont absents, ils reviennent fatigués, donc c'est dur, mais en même temps on a besoin d'eux en club, donc il faut les faire jouer tant qu'ils sont là, donc c'est en même temps négatif pour l'équipe de France, c'est négatif pour les clubs, voilà. Mais ça dessert tout le monde, en fait, ça dessert tout le monde, et je trouve que la gestion du corps... Et de l'état d'esprit aussi, enfin de la motivation, parce que la motivation, elle passe par moins de récurrence, plus de fraîcheur mentale et physique, ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'il y a des exemples à prendre de ça, donc on ne peut pas toujours le faire en club, mais il faudrait effectivement changer les calendriers, où là, le Stade Toulousain est un très bon exemple à l'heure actuelle. Ils ont, un peu par défaut, ils ont dû intégrer beaucoup de jeunes joueurs, qui se retrouvent à être à un niveau excellent et qui sont très performants et qui créent une émulation et une concurrence qui est supérieure au Stade Toulousain, qui permet du turnover. Et du coup, on voit une équipe qui tourne parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur. On peut aussi économiser les joueurs qui sont un peu plus âgés pour qu'ils apportent toute leur expérience, mais aussi leur fraîcheur physique. Mais ils pourraient moins enchaîner que s'ils avaient 20 ans.
Et puis à terme, ça bénéficiera peut-être à l'équipe de France.
Et après, j'espère. Mais en tout cas, c'est important. Mais après, c'est prendre des risques aussi, enfin, de choisir ces tournois. Ça veut dire connaître par cœur et gérer au millimètre sa préparation.
Et vous impliquer aujourd'hui dans le rugby d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui vous
tente? De manière plus lointaine pour l'instant. J'ai refusé d'entraîner, j'avais pas envie de rester dans le même rythme et j'avais besoin de prendre du recul. Donc le fait de sortir un peu, d'être consultant, ça permet de garder un contact avec le rugby qui est très agréable, d'aller encore sur les stades, de voir les copains, de partager avec eux, de m'intéresser toujours au rugby et de le regarder de manière très assidue parce que j'aime ça. Donc ça, c'est... Voilà, je reste connecté. Je me suis amusé à faire un peu des stages rugby pour les jeunes parce que j'avais envie de transmettre, mais pas sur du haut niveau pour l'instant. Ça viendra peut-être dans quelques années, mais là, c'était pas une volonté en tout cas.
Bon, on reparlera tout ça. Et puis, pour tous ceux qui s'intéressent au rugby et à la carrière de Vincent Clerc, donc je rappelle son autobiographie chez les éditions Solar, écrite avec Gilles Navarro, si je ne dis pas de bêtises. Chasseur d'essais, voilà ce qui le résume assez bien. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu aujourd'hui.
Merci à toi.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Eurosport Confidential. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.